et à renforcer la résilience des communautés vulnérables. Crise climatique et faim, même combat. Découvrez comment agir sur www.actioncontrelafaim.org.
Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'écoute de RFI, les piles midi temps universel, 13h à Paris et Oslo. C'est votre journal, Juliette Pietraszewski, bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous. À la une de ce journal, les premiers mots de Maria Corina Machado à Oslo. L'opposante vénézuélienne est donc en Norvège pour recevoir son prix Nobel de la paix. Une conférence de presse est en cours, notre envoyé spécial nous en dira plus dans un instant. À Gaza, de fortes pluies avec le passage de la tempête Byron, alors que près de 850 000 personnes sont toujours déplacées dans l'enclave. Correspondance à suivre. Alors que l'avenir de l'Ukraine semble encore incertain, le chancelier allemand recevait ce matin le secrétaire général de l'OTAN. Une proposition concernant des concessions territoriales ukrainiennes a été soumise hier au président américain. Et puis en France, le secteur de la culture fait savoir qu'il est l'un des moteurs essentiels de la croissance. Une étude estime la contribution du secteur à près de 3% du PIB. On y revient dans quelques minutes.
Oui, l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado est donc à Oslo pour recevoir son prix Nobel de la paix.
Elle est arrivée en Norvège, elle dit avoir bénéficié d'une aide américaine pour sortir du Venezuela. L'opposante numéro 1 à Nicolas Maduro au Venezuela était absente hier lors de la remise de son prix. Quelques heures plus tard, sa venue est donc un symbole fort pour cette opposante qui vit dans la clandestinité depuis la présidentielle de 2024. Maria Corina Machado qui tient une conférence de presse depuis une trentaine de minutes selon l'Institut Nobel. Sur place, notre envoyé spécial Manuel Terradios.
Maria Corina Machado donne à l'instant la conférence de presse officielle avec l'Institut Nobel qui lui a décerné les prix Nobel de la paix. Elle s'exprime depuis les Grands Hôtels d'Oslo. C'est la 12e fois qu'elle prend la parole aujourd'hui. Elle s'était déjà exprimée plus tôt côté du Premier ministre norvégien au Parlement.
J'ai beaucoup d'espoir que le Venezuela soit libre et que nous transformions le pays en un phare d'espoir et d'opportunités démocratiques. Nous accueillerons non seulement les Vénézuéliens qui ont été contraints de fuir, mais aussi les citoyens du monde entier qui trouveront refuge, comme ce fut le cas au Venezuela il y a des décennies.
La dirigeante de l'opposition est apparoupée après 2h du matin sur les balcons du Grand Hôtel d'Oslo pour saluer ses supporters lors de sa première apparition publique depuis janvier. C'était la fin d'une odyssée qui avait commencé le 9 décembre avec un voyage en bateau depuis les côtes vénézuéliennes jusqu'à la petite île de Curaçao dans les Caraïbes, selon le Wall Street Journal. Là-bas, elle a pris un avion qui a d'abord fait une escale technique à Bangor, dans les Maine, États-Unis, avant de se diriger vers Oslo. Un voyage difficile car les autorités vénézuéliennes avaient annoncé qu'elle déclarerait en fuite Maria Corina Machado si elle quittait le pays. Pourtant, Machado a été catégorique. L'intention est de revenir car elle n'envisage pas d'exercer l'opposition depuis l'exil. Manu Terradillos, Oslo, RFI.
Au Proche-Orient, cette déclaration, le Hamas sera désarmé dans le cadre du plan Trump.
Oui, ce sont les propos d'un responsable gouvernemental israélien au lendemain de la proposition d'un dirigeant du mouvement islamiste palestinien de geler l'armement. L'ancien numéro 1 du Hamas a proposé ce gel en échange d'une trêve durable à Gaza. Il se dit par ailleurs ouvert à la présence d'une force internationale de maintien de la paix à la frontière du territoire palestinien avec Israël. Et puis en parallèle, l'ONG Amnesty International accuse aujourd'hui et pour la première fois le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens d'avoir commis des crimes contre l'humanité, dont celui d'extermination lors de l'attaque sanglante du 7 octobre 2023 en Israël et par la suite, le 7 octobre qui avait déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Et depuis, dans le territoire, les pertes humaines seraient évaluées à près de 70 000 Palestiniens selon le ministère de la Santé du Hamas, des chiffres jugés fiables par l'ONU. La bande de Gaza connaît désormais une trêve depuis 2 mois, le 10 octobre, où Israël et le Hamas ont signé la première phase d'un accord de cessez-le-feu.
Et dans ce contexte, Juliette, le territoire palestinien, ravagé par la guerre, connaît aussi de fortes pluies, conséquence du passage de la tempête Byron.
Beaucoup de familles vivent sous des tentes et leur situation est dramatique. Selon le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires, 850 000 personnes sont toujours déplacées dans l'enclave. Les explications de Frédéric Misselin.
Originaire de la ville de Gaza, mais réfugié au sud de l'enclave palestinienne, Iyad est un chef d'entreprise qui regarde la pluie tomber sur Deir el-Bala avec désespoir.
On n'a pas l'impression de vivre en 2025. Nous sommes plus proches du Moyen-Âge, en 1225. Nous essayons de survivre face à la pluie, au froid. Nous sommes en lutte contre le premier ennemi de l'humanité, la nature.
Loaï Nasser, lui, dirige une association et il raconte que les secours ont du mal à intervenir.
Il y a beaucoup d'appels à la défense civile palestinienne. Mais vous le savez, ils n'ont pas les moyens d'accéder aux personnes qui en ont besoin.
Les équipes de la défense civile évacuent les familles dont les tentes sont inondées. Pour Loaï, ce n'est que le début.
Pour l'instant, c'est le début de la tempête. On s'attend à ce qu'elle se renforce dans les prochaines heures.
D'après les prévisions météorologiques, il va pleuvoir encore jusqu'à demain. Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
RFI, quel avenir pour l'Ukraine ? Kiev a indiqué avoir présenté à Washington une mise à jour du plan de sortie de la guerre.
Alors que la journée d'hier a été marquée par un entretien téléphonique entre le Premier ministre britannique, Keir Starmer, le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron avec le président américain Donald Trump. Aujourd'hui, le chancelier allemand recevait ce matin à Berlin le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Friedrich Merz a évoqué de nouvelles propositions de Kiev sur des concessions territoriales de l'Ukraine. Correspondance à Berlin de Pascal Thibault.
Une nouvelle dynamique, le chancelier allemand s'est félicité des nouvelles discussions autour d'une issue à la guerre actuelle. Friedrich Merz a réitéré la nécessité qu'une possible solution inclue les Européens et obtienne le soutien de l'Ukraine. Le chancelier s'est montré diplomatique, interrogé sur l'impatience de Donald Trump, impatience exprimée après l'entretien du président américain hier avec les responsables allemands, français et britanniques. Interrogé sur la réunion que les Européens veulent organiser ce week-end et confirmée par Friedrich Merz, le président américain n'a pas encore décidé si les États-Unis en serait, affirmant « nous ne voulons pas perdre notre temps ». Friedrich Merz a précisé que Kiev avait fait une proposition aux États-Unis amendant les dernières propositions américaines.
Il s'agit avant tout de possibles concessions territoriales que l'Ukraine est prête à accepter, mais c'est une question à laquelle le président ukrainien et le peuple ukrainien doivent répondre. Nous l'avons rappelé au président Trump.
Friedrich Merz n'a pas donné de détails sur ces propositions de Kiev en attendant la réaction de Washington, mais le texte amendé se démarque très certainement du plan original de l'administration Trump, prévoyant de céder à la Russie des territoires que Moscou n'a pas encore conquis. Une proposition rejetée à Kiev et que les Européens jugent trop favorable à la Russie. Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Et du côté de Moscou, cette déclaration ce matin du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Moscou veut un ensemble d'accords de paix à long terme sur l'Ukraine, avec des garanties de sécurité pour toutes les parties concernées, a-t-il souligné.
Allez, direction l'Asie, après des patrouilles russo-chinoises, le Japon et les États-Unis ont annoncé aujourd'hui avoir mené des exercices conjoints.
Une démonstration de force sur fond de vives tensions entre Pékin et Tokyo. Heike Schmidt, bonjour.
Bonjour Juliette.
Des avions de chasse américains et japonais ont donc mené des exercices conjoints ensemble.
Oui, tout à fait. Ce ballet de bombardiers au-dessus de la mer du Japon sonne comme un effet, comme une démonstration de force. Plus question de la politique trumpienne du chacun pour soi, notre engagement envers notre allié japonais est indéfectible, a fait savoir Washington. Deux bombardiers B-52 de la US Air Force et six chasseurs japonais ont mené des manœuvres dans un environnement sécuritaire de plus en plus sévère, selon l'état-major japonais, qui a souligné qu'il ne permettra aucun changement unilatéral du statu quo par la force. Le Japon et les États-Unis ont donc cru bon de montrer leurs muscles suite à des exercices russo-chinois autour du Japon et de la Corée du Sud, mardi, ce qui avait conduit les armées japonaises et coréennes à faire décoller en urgence des avions de chasse. Déjà samedi dernier, des chasseurs chinois avaient ciblé avec leur radar des avions japonais. Ces tensions sont donc très vives depuis que la nouvelle première ministre Sanae Takaishi a laissé entendre que Tokyo pourrait intervenir en cas d'attaque chinoise contre Taïwan.
Les précisions d'Heike Schmidt du service international de RFI. En Asie du Sud-Est, alors que les combats frontaliers entre la Thaïlande et le Cambodge continuent, un appel de Donald Trump est attendu aujourd'hui. Le président américain devrait s'adresser aux dirigeants des deux pays pour leur demander de cesser les hostilités, car aucun signe d'apaisement n'est observé pour le moment. Le bilan actuel est d'au moins 20 morts, parmi eux 9 soldats tués selon le ministère thaïlandais de la Défense et 11 victimes civiles selon les autorités cambodgiennes. Depuis le début de la semaine, plus d'un demi-million de personnes ont été contraintes de fuir les régions proches de la frontière. Ce matin encore, des tirs d'artillerie résonner autour des temples khmers contestés.
Plus de 100 Philippins avaient vu leur vie basculer à cause du super typhon Odette. C'était en 2021. Eh bien, ils réclament désormais une compensation financière à Shell, la plus grande compagnie pétrolière du Royaume-Uni.
Oui, dans le cadre d'une action en justice entamée hier devant la Cour royale de justice de Londres. Au total, 8 millions de personnes ont été touchées par Odette, considérée à l'époque comme un événement hors norme. Ce typhon a été le deuxième plus coûteux jamais enregistré aux Philippines, causant près $1 milliard de dommages. Les survivants affirment que les actions de Shell ont contribué au changement climatique, rendant le typhon beaucoup plus probable et plus violent. Parmi les plaignants, Trixie L, vendeuse de poissons de 33 ans, dont la maison a été détruite.
The trauma is unbearable. Surviving in the flooded island, I have to carry my children. I have my sick father.
Le traumatisme est immense. Survivre dans une île submergée par l'eau. Lors de l'évacuation, j'ai dû porter mes enfants. J'étais avec mon père malade, mes grands-parents âgés et ma mère qui était blessée. Le lendemain, notre maison avait disparu. Tout avait disparu. Et ce n'est pas qu'une maison qu'on peut remplacer comme ça. Nous y vivions depuis tant d'années. Et nous, petits pêcheurs, n'avons pas les moyens de construire facilement. Nous n'avons pas d'assurance. On part pêcher dans la chaleur, les tempêtes et les pluies diluviennes pour gagner de quoi reconstruire. Shell est l'un des plus gros producteurs d'hydrocarbures dans le monde. Et Shell savait pour le changement climatique depuis 1965. Et pourtant, ils ont continué leur business et les gens en subissent les conséquences. Ça ne veut pas dire que les quatre autres majors pétrolières ne vont pas avoir à rendre des comptes. On va les poursuivre les unes après les autres. On commence juste par Shell.
And we are suing one by one and we choose Shell to be the first.
Des propos recueillis par Jero Bosman. En Birmanie, au moins 30 morts dans une frappe aérienne lancée par la junte au pouvoir. Les militaires ont visé un grand hôpital dans l'état de Rakhine, dans l'ouest du pays, selon un groupe rebelle, un travailleur humanitaire et un témoin. Plus de 70 personnes ont été blessées, ont-ils également souligné. Depuis le coup d'état de 2021 qui a renversé le gouvernement élu, dirigé par la lauréate du prix Nobel Aung San Suu Kyi, la Birmanie est en proie à la guerre civile.
RFI, 13h12 presque, ici à Paris, le gouvernement de Sébastien Lecornu estime possible l'adoption d'un budget avant la fin de l'année.
Oui, mais la mission semble périlleuse dans un calendrier très serré. L'attitude des sénateurs majoritairement à droite sera décisive. Raphaël Delvolvé, en l'état, le compromis semble très difficile à obtenir.
À Matignon, on attend des sénateurs le même esprit de compromis que les députés LR sur la sécurité sociale. Mais la droite sénatoriale n'est pas celle de l'Assemblée nationale, loin de là. Leur poids lourd, Bruno Retailleau, le dit sans embâche dans la presse ce matin, il ne pourra pas y avoir d'accord avec des hausses d'impôts et sans baisse des déficits. On sera sur une ligne dure, confirme un proche du patron des LR, au moment où la gauche socialiste monnaie sa bienveillance à l'égard du gouvernement contre de la justice fiscale. Or, un sénateur le dit, on n'est pas là pour plier le genou devant Olivier Faure, on laisse ça à d'autres, dans une pique à peine voilée aux députés LR qui, sous la direction de Laurent Wauquiez, ont largement contribué à faire passer le projet de loi de finances de la Sécurité sociale cette semaine, pourtant qualifié de hold-up fiscal par Bruno Retailleau. La droite sénatoriale anticipe déjà des procès en instabilité. Le chantage, ça suffit. Si Lecornu n'est pas content, il utilise le 49.3 et on a un budget dans les temps, souffle un sénateur déterminé à se faire respecter.
Raphaël Delvolvé est toujours en France. Le secteur de la culture fait savoir qu'il est un des moteurs essentiels de la croissance.
5 ans après l'effondrement d'une grande partie des acteurs de l'industrie culturelle pendant la pandémie de Covid-19, une étude estime la contribution du secteur à près de 3% du PIB. Nathanaël Vitran, bonjour.
Bonjour.
Les industries culturelles et créatives représentent aussi 586 000 emplois directs.
Et même plus d'un million si on compte les emplois directs et indirects. Et on dit souvent que la culture est un trésor inestimable. Eh bien, c'est faux, répondent les experts du cabinet de conseil EY. On peut, disent-ils, parfaitement estimer la contribution du secteur à l'économie, à condition déjà de le définir. Qu'est-ce que la culture ? Vous avez 3 heures. De son côté, EY répond : la littérature, le cinéma, le jeu vidéo, le spectacle vivant, la presse, l'audiovisuel, la radio, coucou, mais aussi la publicité pour son volet créatif, la musique évidemment, et last but not liste, le patrimoine. C'est même cette dernière catégorie qui comprend les musées, les galeries d'art, le design, l'architecture, cette catégorie qui rapporte le plus de 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Toutes réunies, les industries culturelles et créatives ont généré plus de 100 milliards d'euros de revenus en 2024, dont 43 milliards de valeur ajoutée. Un chiffre en hausse de plus de 20% sur 5 ans. Alors cette étude est commanditée par les associations professionnelles du secteur en pleine discussion sur le budget. Tiens, au moment où la tentation est forte pour faire des économies, de tailler dans les dépenses culturelles, ce serait, disent-ils en substance, prendre un risque parfaitement estimable.
Les précisions de Nathanaël Vitran du service économie de RFI. Et puis au Portugal, une grève contre une réforme du code du travail. Les transports en commun, les écoles et les hôpitaux sont touchés. Les manifestants protestent contre cette réforme voulue par le gouvernement de droite qui dit vouloir stimuler la croissance économique pour créer plus d'emplois et payer de meilleurs salaires. Il s'agit du plus important mouvement social depuis 2013 dans le pays.
Le Portugal qui tourne au ralenti. À tout à l'heure, Juliette Pietraszewski. On part tout de suite au stade. Avec vous, Thomas de Saint-Léger, bonjour.
Bonjour Charlotte.
Le foot, d'abord, sixième journée en Ligue des Champions et le PSG qui a freiné hier à Bilbao.
Match nul et vierge, 0-0. C'est rare de voir ce PSG muet. Paris, troisième de la phase de Ligue avec 13 points. Derrière, attention, ça se rapproche. Manchester City et l'Atalanta Bergame, 13 points aussi, emmènent un peloton de 4 équipes à 12 unités avec, entre autres, le Real Madrid, battu justement par Manchester City 2-1 au stade Bernabéu. Kylian blessé, Mbappé blessé, n'a pas joué. Et pour le Real, ça fait seulement 2 victoires sur les 8 derniers matchs.
C'est
la crise à la Maison Blanche et l'entraîneur Xabi Alonso est sur un siège éjectable. Heureusement, son vestiaire, pour l'instant, reste au soutien. Le gardien de but Thibaut Courtois est au micro de Pierre Chaperon.
Nous avons démontré que nous formons une équipe soudée, que nous soutenons notre entraîneur et que tout le monde se bat pour changer cette dynamique. Nous allons continuer sur cette idée et bien terminer cette année 2025, puis revenir en force en 2026. La série de matchs n'a pas été bonne. Quand on n'a que 2 victoires en 8 matchs, ça n'est pas bon. Mais aujourd'hui, l'équipe a démontré qu'elle soutenait son entraîneur. Nous avons réagi, les joueurs ont tout donné et nous avons finalement perdu contre un bon adversaire. Nous avons bien défendu, bien attaqué, créé des occasions. Le ballon ne voulait pas rentrer. La dernière passe, le tir qui est passé à côté. Nous avons montré comment nous devons jouer avec de l'intensité, avec engagement collectif. Je pense que nous avions tout cela aujourd'hui.
C'était donc
Thibaut Courtois.
Bien vu.
Le gardien belge du Real Madrid. On passe aux autres Coupes d'Europe aujourd'hui.
La Ligue Europa d'abord avec 2 clubs français aux antipodes. Nice, bon dernier, 5 défaites en 5 matchs, joue face à Braga et c'est plus une question d'honneur que de points à marquer, alors que Lyon, fringant leader, reçoit Go Ahead Eagles, un club néerlandais. L'OL très performant donc sur la scène européenne, beaucoup plus irrégulier en Ligue 1. Et oui, difficile d'enchaîner avec un effectif réduit, le gardien Rémi Descamps.
C'est pas évident quand on joue tous les 3 jours et que ça se répète énormément. C'est compliqué, même pour nos internationaux qui ont aussi des matchs pendant les coupures. Donc c'est vrai que peut-être la profondeur de banc et le fait qu'on ait aussi un effectif assez jeune nous permet pas en soi de gagner tous les matchs actuellement. Mais je suis sûr qu'on va rebondir et qu'on va remonter au classement en Ligue 1 en tout cas et en Europa League maintenir ce niveau-là.
Rémi Descamps, gardien de l'OL, 5e de Ligue 1 et 1er en Ligue Europa. Le 3e club français dans la compétition, c'est Lille, 11e, qui joue en fin d'après-midi à Berne en Suisse face aux Young Boys. Et puis en Ligue Europa Conférence, Strasbourg va défendre sa 2e place au classement en Écosse sur le terrain d'Aberdeen.
Oui, ça va bien aussi pour l'équipe féminine de Lyon, l'OL Lyon en Ligue des Championnes.
5e victoire en 6 matchs, 3-0 sur la pelouse de Manchester United avec un doublé de la joueuse haïtienne Melchi Dumornay. Les Lyonnaises sont 2e du classement derrière Arsenal et quasiment assurées maintenant d'une qualification directe pour les quarts de finale. Bonne opération aussi du Paris FC avec un succès 1-0 à Oslo en Norvège face à Vålerenga, succès synonyme de barrage pour les Parisiennes.
Allez, du handball pour finir les championnats du monde féminin. Les Bleus peuvent toujours garder leur titre.
Elles sont qualifiées pour les demi-finales grâce à une victoire 31-26 face au Danemark hier. Le prochain adversaire, c'est l'Allemagne. Demain, à Rotterdam, aux Pays-Bas, donc.
Thomas Saint-Léger pour le Journal des Sports. À noter, évidemment, à suivre tout à l'heure sur RFI Radio Foot. International, 16h10, temps universel. Pour l'heure, 14h19 à Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, la ville investie par les combattants du M23, et cela en plein processus de paix dans la région sous l'égide des États-Unis. Le chef de la diplomatie du Burundi estime que ces derniers développements, cette entrée du M23 à Uvira, est une gifle infligée à Washington et même, je cite, un doigt d'honneur. Bonjour Jeffrey Hawkins.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ex-ambassadeur des États-Unis en Centrafrique et consul général au Nigeria, chercheur associé à l'IRIS, enseignant également à Sciences Po Paris. Le président américain avait qualifié l'accord entre la République démocratique et du Congo et le Rwanda de grand miracle. Dans les faits, effectivement, on le voit, c'est loin d'être le miracle. Est-ce que c'est, selon vous, une claque, comme le dit Bujumbura, pour le président américain?
Un claque, je ne sais pas, mais c'est vrai que le président américain et son administration a fait beaucoup de bruit et se sont fait beaucoup d'éloges sur les accords qui ont été signés le 4 décembre à Washington. Et évidemment, cela va sans dire que les combats se poursuivent. Il y a eu 400 civils tués récemment. La ville d'Uvira est tombée. Donc, on pourrait se demander à quoi ça sert les accords. Mais pour Washington, je pense que l'intérêt est autant ou peut-être plus sur les richesses minérales du Congo que sur un éventuel accord de paix. Donc, en même temps, Washington a signé des accords et avec le Rwanda et avec le Congo sur les sujets économiques. Et je pense que c'est là le véritable intérêt de Washington pour ce processus de paix.
C'est vrai que ce processus comprend un important volet économique, vous le disiez, notamment sur les minerais, hein. Les minerais stratégiques dans cette région. Mais alors, ça veut dire que ce sont des accords business avant d'être des accords de paix qui ont été signés sous l'égide des États-Unis ?
Bon, on a que regarder tous les conflits que Donald Trump estime avoir réglés ces derniers temps, que ce soit en Asie où on voit la Thaïlande et le Cambodge reprendre les combats après un cessez-le-feu, parrainé par Donald Trump, d'autres conflits, l'Ukraine où le plan de Trump a été plus ou moins accepté par Vladimir Zelensky, on va voir où ça mène par la suite, l'Inde, le Pakistan, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Tout ça, c'est beaucoup de fumée et pas beaucoup de feu, si on peut le dire ainsi. Et c'est pareil pour le Congo, mais je pense qu'effectivement, ce qui intéresse Donald Trump et son administration, c'est plutôt leurs objectifs économiques. Et là, ils ont eu un succès. Reste à voir si Washington peut traduire ces accords politiques en réel investissement, réel retour économique d'une zone qui est toujours très perturbée par le conflit.
Oui, parce qu'on peut dire aussi que sans paix, bah, il n'y a pas de business. Donc finalement, Donald Trump ne pourrait ne pas aboutir sur ses objectifs, comme vous le dites.
Et il faut dire que les Chinois qui se sont beaucoup investis dans ce domaine, dans cette région de l'est du Congo, ils ont quand même réussi à continuer leurs affaires malgré les conflits qui perdurent dans la région. Donc peut-être que Trump aussi, il espère que les hommes d'affaires américains pourraient, avec le soutien du Congo et éventuellement peut-être en moindre mesure du Rwanda, faire du business malgré les conflits.
Mais de quel levier il dispose maintenant Donald Trump? Qu'est-ce qu'il a à sa disposition pour avancer donc dans ce dossier là précis entre la RDC et le Rwanda?
Donc le Congo évidemment a intérêt à faire partir les troupes rwandaises. Je pense qu'il y a à peu près au moins plusieurs milliers de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Donc le Congo a l'espoir de soutien de Trump pour faire partir les Rwandais, éventuellement peut-être amener les forces rebelles qui sont un peu en relation étroite avec les Rwandais à partir ou au moins céder quelques territoires. En même temps, le Rwanda, qui était un peu isolé diplomatiquement, a intérêt à montrer qui sont raisonnables, qu'ils travaillent avec la communauté internationale et notamment Donald Trump pour résoudre un conflit qui dure depuis des décennies. Donc tout le monde a intérêt au moins à faire semblant. Entre faire semblant et réellement trouver une voie vers la paix, c'est pas évident.
Vous disiez tout à l'heure beaucoup de fumée, pas beaucoup de feu. Vous évoquiez au-delà du cas de la RDC, Donald Trump qui s'est targué d'être un faiseur de paix ailleurs, Ukraine, Thaïlande, Cambodge. Manifestement, le volontarisme américain ne suffit pas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de crédibilité quand même pour le président américain ?
Certes, mais peut-être pas dans son propre cerveau, parce que il ne cesse de se vanter de toutes les prodiges qu'il a fait à droite et à gauche. Et il faut dire, de temps en temps, il a des succès. Et,
comme au Proche-Orient.
Et oui, justement, j'allais citer le Gaza, là où c'est un conflit qui est loin d'être résolu, c'est certain. Mais au moins, dans un premier temps, il a réussi à obliger les Hamas et les Israéliens à faire un cessez-le-feu. Il a négocié le retour des otages, qui est déjà quelque chose. Donc, mais en général, il parle beaucoup plus qu'il n'agit.
Et avec des interlocuteurs, c'est intéressant, hein, qui ne sont pas des diplomates classiques, avec des profils justement beaucoup plus business. Merci beaucoup à vous, Jeffrey Hawkins, ex-ambassadeur des États-Unis en Centrafrique, bonne journée.
Merci, au revoir.
On va revenir à la situation en RDC dans quelques minutes dans Afrique Midi. D'ici là, la Centrafrique, où se préparent les élections du 28 décembre, quadruple scrutin historique, présidentiel, législatif, régional et municipal, avec à la clé un éventuel troisième mandat pour le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, arrivé au pouvoir il y a 10 ans, dans la foulée de la guerre civile et de la transition. Alors, quel bilan aujourd'hui, quel bilan sécuritaire et socio-économique extrême du grand reportage signé François Mazet.
Là, dans les ruelles, la vie est tactique, dit-on. Comprendre qu'à chaque jour suffit sa peine pour mettre dans la marmite le repas quotidien. Livia, debout devant son échoppe du quartier de La Conga, vend des produits de mercerie, de coiffure et quelques boissons. De sortie de son bureau chez un opérateur téléphonique, son fils Freddy l'a rejoint.
Ce que je peux dire concernant le niveau de vie présentement, je peux dire qu'en tant que jeune, je vois qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Surtout au niveau de la jeunesse, au niveau de la population, les conditions de vie. On aimerait dépasser ça, au moins avoir la sécurité dans chaque domaine. Là.
C'est vraiment la débrouille.
Oui, c'est vraiment la débrouille. Pouvoir manger, voilà, se soigner, se vêtir, se loger et tout. Il faut déjà avoir les conditions de vie, comment est-ce que la population doit manger, parce que tout est cher. Même pour payer du savon, le prix a augmenté, donc on ne peut pas que dépendre du Cameroun. On a aussi besoin de nouvelles têtes, hein. On n'a pas aussi besoin que quelqu'un vienne faire 50 ans, 30 ans, voilà, non. Il y a des jeunes qui sont là, il y a des leaders qui sont là. Pourquoi ne pas donner la chance aux autres aussi? Ceux qui en bénéficient, ils sont peu.
Et là, parmi les candidats aux élections, par exemple, c'est tous des anciens, entre guillemets.
Voilà, c'est ceux qui sont...
Il n'y a pas de renouvellement.
Non, il n'y a pas de renouvellement. Au fait, on veut aussi soutenir un jeune qui vienne challenger, amener de l'innovation. Donc, c'est tout ça qu'on demande.
Georges s'arrête vers nous. Il nous donne sa priorité pour le prochain chef d'État. Il défend une embellie, actuellement.
Penser d'abord à son peuple, à sa population. Faire une place à cette population-là. Parce que présentement, avec le professeur, il y a un léger mieux. Nous voyons qu'il y a sincèrement, il y a un léger mieux. Les fonctionnaires sont régulièrement payés, les pensions sont payées, la bourse sont payées. Alors donc, c'est déjà un léger mieux.
Voilà, ce grand reportage en Centrafrique de François Mazet est à écouter tout à l'heure sur RFI en intégralité à 19h40, temps universel, en podcast également sur le site de RFI ou l'application Pure Radio. À tout de suite, dans une minute.
Les 27 et 28 décembre, rendez-vous à Cotonou, au Bénin, pour le festival We Love Eya. Une expérience, une ambiance, un public et des artistes majeurs venus du monde entier, réunis sur la scène du festival Afrobeats et Urbain de référence. Plus d'informations sur weloveeyafestival.com. We Love Eya, les 27 et 28 décembre à Cotonou, en partenariat avec RFI.
Les dessous de l'Infox. Sophie Malibo.
Un an s'est écoulé depuis la chute de Bachar el-Assad, qui a permis de dissiper le mythe de l'assistance russe au régime et de dévoiler l'ampleur des exactions contre les populations. Mais qu'en est-il au Sahel ? On en parle avec Jonathan Guiffard, membre de Géode, le projet de géopolitique de la datasphère.
Les dessous de l'Infox, avec Sophie Malibo, tous les vendredis à partir de 17h30 TU sur RFI.
Et sur RFI, à midi et demi, temps universel, c'est l'heure d'Afrique Midi. Avec vous, Simon Bortembo, bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et à tous. Afrique Midi et à la une, à l'est de la RDC, la vie reprend timidement à Uvira au lendemain de l'entrée de l'AFC M23. La deuxième ville du Sud Kivu est donc passée sous contrôle du groupe armé. Conséquence, le Burundi voisin fait face à un nouvel afflux massif de réfugiés en 6 jours. Plus de 40 000 personnes sont arrivées sur le territoire burundais. Quelles sont les conditions de prise en charge de ces hommes et femmes? Brigitte Mukanga Eno, présidente du HCR au Burundi, est l'invitée d'Afrique Midi. Nous serons également au Bénin pour faire le bilan de la tentative de coup d'État de dimanche dernier. Le porte-parole du gouvernement estime le nombre de mutins entre 100 et 200. Présenté comme l'initiateur du putsch, le lieutenant-colonel Pascal Tigri est toujours en cavale. Dans cette édition, nous verrons également comment les États de la CEDEAO entendent faire baisser le prix des billets d'avion en Afrique de l'Ouest. Nous serons au Burkina Faso qui célèbre aujourd'hui le 65e anniversaire de son indépendance. Le capitaine Traoré s'est exprimé hier dans une vidéo, le dirigeant burkinabé vante son bilan sécuritaire, nous le verrons. Et puis du sport et du football, J-10 avant la Coupe d'Afrique des Nations. Suite de notre série de reportages dans Afrique Midi, nous serons à Tanger qui accueille 6 matchs de la CAN au Maroc. À Uvira, la situation a donc basculé en moins de 24 heures. Hier, en fin de matinée, la deuxième ville du Sud Kivu est passée sous le contrôle de l'AFC M23. Une offensive éclair qui a vu les combattants du mouvement soutenu par le Rwanda pénétrer dans la ville sans réelle résistance. Passant Ligodi, bonjour.
Bonjour Simon.
Aujourd'hui, l'AFC M23 consolide sa présence à Uvira et étend son contrôle sur plusieurs quartiers.
Cet avant-midi à Uvira, la vie a repris, mais très timidement. Les marchés en rouvert, même si l'activité reste au ralenti et les écoles demeurent fermées. Dans la ville, des véhicules de la FM23 circulent encore. Leurs troupes oscillonnent plusieurs quartiers. Des habitants que nous avons joints rapportent des coups de feu entendus encore ce matin, notamment dans le quartier Songo. Le mouvement poursuit l'extension de son contrôle sur Uvira. Hier soir, Bernard Maéché Biamungu, chef d'état-major adjoint de la FM23, est arrivé lui-même dans la ville. Il a lancé un appel aux militaires burundais qui, selon lui, serait encore présent à Uvira. Il les invite à se rendre, promettant qu'ils seront escortés vers la frontière sans être inquiétés. Une frontière que l'AFC M23 contrôle côté congolais et qui, à cette heure, reste fermée.
Et patient, depuis hier, les réactions politiques sont peu nombreuses côté congolais.
Oui, on sait que le gouvernement congolais demande des sanctions contre Kigali. Même temps, dans la famille politique de Félix Tshisekedi, du côté de l'Union Sacrée, la plateforme du président congolais, le secrétaire permanent appelle à une mobilisation nationale. Il annonce une marche le vendredi 19 décembre. Objectif, je cite, demander aux parrains et témoins de l'accord de Washington de passer des déclarations d'intention aux actes et d'imposer, je cite, des sanctions effectives contre le Rwanda. Autre réaction dans la majorité, la Ligue des Jeunes de l'UDPS, le parti présidentiel, presse Félix Tshisekedi de renouveler en urgence donc le commandement militaire et les services de sécurité. Et dans l'opposition, en revanche, quasiment aucun commentaire pour l'instant.
Passe sur Ligodi du service Afrique de RFI. Vous l'évoquez, la réaction du gouvernement congolais via son porte-parole. Il demande à la communauté internationale de prendre des sanctions à l'égard de Kigali. Patrick Mouyaya, hier à la télévision nationale.
La situation qui se passe dans la partie est de notre pays est inacceptable, surtout après la signature de l'accord le 4 décembre dernier. Nous savions que le Rwanda n'était pas de bonne foi dès le début du processus, mais il fallait les confronter jusqu'au bout parce que nous croyons à la médiation américaine. Le président de la République avait eu l'occasion de mettre le point sur la table à l'occasion des échanges à la Maison-Blanche et quelques jours après, les faits lui donnent raison en parlant des offensives généralisées qui ont été lancés par le Rwanda, accompagné de son fils, le M23. Et d'ailleurs, vous avez suivi ces communiqués unanimes du groupe de contact de tous les partenaires internationaux. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas se permettre de faire un camouflet au président américain. Et donc, le fait que le Rwanda sape un accord qui a été salué unanimement par le monde entier, c'est une preuve supplémentaire qui n'ont aucune considération pour le droit international. Donc nous exigeons des sanctions pour s'assurer que l'accord produise les effets escomptés.
La RDC, qui comme le Burundi, accuse donc Kigali de violer l'accord de paix. Le chef de la diplomatie rwandaise a répondu aux accusations émises contre son pays par les gouvernements burundais et congolais. Les détails avec notre correspondante à Kigali, Lucie Mouillot.
Interrogé à la télévision nationale rwandaise, pour le ministre des Affaires étrangères, Olivier Ndungirehe, ce n'est pas Kigali mais Kinshasa qui a violé l'accord de paix de Washington, dénonçant également les actions de l'armée burundaise aux côtés des FARDC.
Il n'y a qu'une option possible pour le Burundi, c'est le retrait de ses forces du sud Kivu s'ils veulent la paix dans la région. Et ici, je tiens à réaffirmer l'engagement du Rwanda pour la paix. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il y ait une mise en œuvre stricte du cessez-le-feu qui inclut le retrait des troupes burundaises et l'arrêt de ces frappes aériennes.
Répondant également au groupe de contact pour la région des Grands Lacs, qui dans un communiqué signé par les États-Unis et plusieurs pays européens, demande à l'AFC M23 et aux forces armées rwandaises de cesser immédiatement leur offensive, le chef de la diplomatie de Kigali dénonce un parti pris.
C'est comme si ces pays occidentaux se réveillent lorsque celui qui est attaqué par ces frappes aussi répond à ces attaques. Oui. Donc il faut quand même qu'il y ait une cohérence de la part de la communauté internationale et surtout de la part des pays occidentaux.
Pour le ministre, toutes les parties doivent respecter leurs engagements dans l'accord signé à Washington la semaine dernière. Un accord qui reste, selon un communiqué du gouvernement rwandais ce mercredi, la voie la plus viable vers la paix dans la région des Grands Lacs. Lucie Mouillot, Kigali. RFI,
à 13h36 à Cotonou, au Bénin. On connaît désormais le déroulement précis de la tentative de coup d'État de dimanche dernier. Le porte-parole du gouvernement béninois s'est exprimé hier. S'il reconnaît l'appui de la France et de la CDAO, il a surtout insisté sur le rôle décisif des forces armées béninoises dans l'échec du putsch. Par ailleurs, les enquêtes se poursuivent et les mutins qualifiés de soldats indignes devront répondre de leurs actes devant la justice. Les détails avec Jean-Luc Aplogan.
Au pupitre, Wilfried Ngwedi a rappelé que la conférence nationale de 1990 a fermement proscrit les coups d'État au Bénin. Le dernier remonte à 1972 avec Mathieu Kérékou, il y a donc 53 ans.
À cette époque-là, nous avons dit au Bénin qu'elle est révolue. Leurs revendications sont fallacieuses. Il ne leur appartient pas de venir s'ériger en arbitre.
Il qualifie les mutins de soldats indignes et évalue leur nombre entre 100 et 200. Le meneur, le colonel Pascal Tigri et ses complices sont activement recherchés. Interrogé sur d'éventuels commanditaires extérieurs, il a répondu ceci.
Nous avons vu sur les réseaux sociaux d'où sont venus les renforts aux mutins en matière de désinformation. Pour autant, nous ne soupçonnons à cette étape-ci personne. Les enquêtes nous permettront in fine de savoir s'il y a eu des instigateurs venant de l'extérieur.
L'orateur a salué à plusieurs reprises l'intervention efficace de l'armée béninoise.
Le renfort est arrivé en appoint pour permettre de finaliser le travail. Le job avait déjà été assuré par notre armée.
Répondant à une question sur le maintien ou le report des élections générales, il a affirmé que tout l'agenda institutionnel sera respecté. Le pays organise le 11 janvier prochain des élections communales et législatives. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
C'est une réforme qui doit permettre de réduire les coûts du transport aérien en Afrique de l'Ouest. Les États membres de la CEDEAO ont approuvé l'abolition des taxes sur le transport aérien et la réduction de 25% des redevances passagers et sécurité payées par les usagers. Avec cette mesure qui doit être effective à partir du 1er janvier 2026, l'Organisation économique ouest-africaine espère notamment à court terme une baisse du prix des billets pour les voyageurs. Depuis Abuja, Moïse Gomis revient pour RFI sur l'origine de cette réforme.
Chaque État membre avait jusqu'au 30 novembre dernier pour communiquer à la commission de l'organisation ouest-africaine les mesures légales et réglementaires prises pour appliquer la réduction des charges et l'abolition des taxes sur le transport aérien. C'est ce qu'indique un courrier adressé il y a un mois à chaque ministre de l'aviation des pays de la CEDEAO par le président de la commission Oumar Alu Touré. La taxe sur les billets d'avion, celle pour le tourisme ou encore celle de solidarité ne doivent donc plus s'appliquer au transport aérien dans toute la CEDEAO à compter du 1er janvier 2026. Selon Chris Appia, le directeur du transport à la Commission, une fois ces taxes supprimées et ces frais réduits, la prochaine étape consistera à inciter les compagnies aériennes à baisser leurs tarifs, car elles ne paieront plus ces taxes et ces frais au gouvernement. Oumar Alu Touré exhorte d'ailleurs ses gouvernements des États membres à ne pas introduire de nouvelles redevances ou taxes aéronautiques pour ne pas compromettre la mise en œuvre d'une réforme votée en décembre 2024 par les chefs d'État de la CEDEAO. Et cette réforme, le président de la Commission ouest-africaine l'estime indispensable pour relancer l'intégration régionale. Moïse Gomis, Abuja, RFI.
Au Kenya, la justice vient de suspendre l'accord de coopération de santé avec les États-Unis. Le texte signé vendredi dernier avait fait l'objet d'une plainte par une organisation de défense des consommateurs qui s'inquiète notamment de l'usage par Washington des données médicales partagées avec les États-Unis. L'accord de coopération en question prévoit un financement de plus d'1,5 milliard de dollars pour lutter contre des maladies infectieuses au Kenya. En échange, Nairobi doit partager un certain nombre de données épidémiologiques pour une durée de 7 ans. L'affaire doit être entendue le 12 février prochain par la Haute Cour de Nairobi. Le Burkina Faso célèbre aujourd'hui le 65e anniversaire de son indépendance. Pour l'occasion, le capitaine Traoré s'est exprimé hier dans une vidéo. Au milieu de véhicules blindés sur un terrain en zone rurale, Ibrahim Traoré dresse un bilan positif de la révolution en cours au Burkina Faso. Alexandra Branjon, il a surtout évoqué la lutte antiterroriste et les progrès industriels et économiques du pays.
Saluant les efforts des forces armées burkinabées, le capitaine Ibrahim Traoré assure que le Burkina Faso a fait des progrès dans plusieurs domaines, dont la défense, avec la reprise de plusieurs zones des mains de l'ennemi, sans aucune précision sur ces localités reconquises.
Plusieurs zones ont été reconquises en un mois, où nos forces combattantes ont mis pied et s'y sont installées. Toutes les résistances ennemies qui sont opposées à nos forces ont été écrasées. Ces criminels qui avaient occupé ces zones de notre patrie, croire que c'était leur sanctuaire, ont été délogés dans plusieurs zones, sont en train de fuir le Burkina Faso. Ils n'ont que deux choix, fuir le Burkina Faso ou mourir.
Dans ce message plus court que d'habitude, le capitaine Traoré invite les opérateurs économiques à changer de logiciel en développant la transformation locale des matières premières. Agents de santé, enseignants, agriculteurs, tous ont été appelés à redoubler d'efforts car le monde entier suit ce qu'il se passe au Burkina Faso.
Le Burkina Faso aujourd'hui est une vitrine, est un modèle. Les gens nous suivent et nous n'avons pas le choix que de réussir. Et il faut que ce modèle puisse donc inspirer d'autres peuples à rejoindre le combat de la révolution pour que l'Afrique soit libre, digne et prospère.
Le capitaine Traoré martèle qu'ils ne baisseront pas les bras et continueront sur leur lancée, invitant la jeunesse à encourager le combat pour la souveraineté, l'indépendance et la liberté.
Alexandra Branjon du service Afrique de RFI. Midi 42 en temps universel, Afrique Midi se penche ce jeudi sur la vie des femmes peules sous le contrôle des djihadistes du JNIM. Que pensent-elles du JNIM? C'est la question à laquelle tente de répondre le rapport publié lundi par le programme de recherche britannique Accept. 77 femmes de l'ethnie peule ont donc été interrogées, stratégiquement ciblées par le recrutement du JNIM dans le centre du Mali et le nord du Burkina Faso. Certaines de ces femmes soutiennent le groupe djihadiste, d'autres le détestent. David Bachet, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
David, les chercheurs estiment que ces témoignages révèlent plus souvent d'une stratégie de survie que d'une radicalisation.
Oui, alors certaines sont épouses, mères ou grand-mères de djihadistes, d'autres n'ont aucun lien direct avec eux et plus de la moitié des 77 femmes interrogées ont vécu au moins 5 ans sous le contrôle effectif du JNIM. Port du voile, interdiction de travailler, de conduire, restrictions dans l'accès aux soins et à l'éducation, suppression de cérémonies traditionnelles. Les femmes ont unanimement décrit l'ascension du Jnim comme ayant entraîné des changements profonds et majoritairement négatifs, écrivent les chercheurs. Certaines politiques du Jnim trouvent cependant un écho favorable. Aide matérielle, généralement issue de pillages, ou meilleur accès à la justice, exercée par des juges islamiques, notamment. Les femmes interrogées expliquent avoir dû s'adapter et devenir de plus en plus dociles pour éviter des châtiments corporels comme les coups de fouet. Quelques-unes admettent avoir apporté un soutien concret au Jnim, renseignements, approvisionnement logistique, nettoyage des cuisines dans des bases djihadistes. Les trois quarts rapportent des violations des droits humains et des sanctions collectives infligées à la communauté Peul par les armées régulières, maliennes et burkinabées, et par leurs supplétifs, nationaux ou russes. Réelles ou perçues, précisent les chercheurs, ces violences sapent la légitimité de l'État et sont instrumentalisées par le Jnim pour se présenter comme un protecteur et recruter de nouveaux membres.
David Bachet, vous signez d'ailleurs à ce sujet un article complet sur notre site internet www.rfi.fr. Les conséquences de la guerre qui sont également dramatiques pour les femmes et les jeunes filles au Soudan. À la faveur du conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, les violences faites aux femmes explosent. Torture, viol, enlèvement, mariage forcé. L'initiative stratégique pour les femmes de la Corne de l'Afrique parle d'une véritable arme de guerre. Gaëlle Lalex.
L'organisation a pu documenter près de 1300 cas de violences faites aux femmes depuis le début de la guerre. Une goutte d'eau comparée à la réalité, reconnaît la CIA, qui explique qu'il est difficile de récolter des informations. Plus des trois quarts de ces violences sont des viols et 87% sont attribués aux forces de soutien rapide. L'âge des victimes va de 4 à plus de 60 ans. Ces viols ciblent les femmes en fonction de leur ethnie, de leur profession et de leur catégorie sociale. Les chercheurs ont établi un modèle de la violence de genre perpétrée par les FSR. D'abord, lors de la conquête du territoire, les combattants pillent et violent les femmes dans leur foyer. Ensuite, après leur installation, les FSR violent dans les espaces publics, comme la rue, notamment en Réunion. Enfin, les combattants s'accaparent les femmes. Elles sont enfermées dans leur maison, mises à leur disposition, parfois mariées de force. La CIA dénonce également des violences commises par l'armée soudanaise, notamment après la reprise de Khartoum, où certaines ont été accusées de collaborer avec les FSR. Pour l'organisation, ces violences sont héritées d'une longue tradition d'impunité, perpétrées lors des conflits soudanais précédents, dans le Darfour, le Kordofan ou encore les montagnes Nouba. Gaëlle Lalex, Nairobi, RFI.
Du football dans Afrique Midi, J-10 avant la Coupe d'Afrique des Nations. Pour cette CAN au Maroc, la RDC arrive ambitieuse, demi-finaliste de la dernière édition. La RDC retrouve dans les buts un héros de l'épopée en Côte d'Ivoire. Le gardien Lionel Mpassi est de retour dans la peau d'un titulaire avec les Léopards. Son rôle en sélection, l'objectif de la RDC au Maroc. Lionel Mpassi se confie au micro RFI de Baptiste Leduc.
Je pense que ça me suivra toute ma vie, parce que quand je retourne au Congo, les gens ils m'identifient à ça.
Impossible d'oublier ce tir au but réussi par Lionel Mpassi contre l'Égypte au bout du suspense à San Pedro pour envoyer la RDC en quart de finale de la CAN ivoirienne. Ce que le gardien du Havre en France aimerait laisser derrière, en revanche, ce sont les mois qui ont suivi, devenu numéro 2, comme si tout le reste n'avait été qu'un rêve.
Ça fait un peu mal à l'ego. Mais moi, quand je suis arrivé en sélection, j'étais gardien numéro 2. J'ai dû patienter pour récupérer le poste. Du coup, je savais qu'il fallait être patient, il fallait continuer à travailler. Ouais, j'ai pas lâché, j'ai travaillé et l'opportunité s'est représentée. Du coup, j'ai su la saisir.
Deux ans plus tard, il est revenu au meilleur moment sur le devant de la scène. Lionel Mpassi veut être un des leaders de Léopards ambitieux au Maroc.
On a toujours à cœur de faire mieux, que les rassemblements précédents. Du coup, ouais, il n'y a pas d'objectifs clairs qui ont été donnés, mais je pense que dans la tête de tout le monde, on sait qu'on est capable d'aller en demi-finale de CAN, pourquoi pas aller la chercher, quoi.
Passy, le chasseur, a identifié sa première proie, le Sénégal, de son ami et concurrent au poste de gardien au Havre, Moridio.
La RDC qui commencera sa CAN face au Bénin le 23 décembre à Casablanca. À propos de la Coupe d'Afrique des Nations, dans quelques minutes, l'épisode de notre série de reportages à la découverte des villes hautes de la CAN. Nous sommes à Tanger ce jeudi. À Tanger, où il est à 13h passé de 47 minutes, une heure de moins en temps universel. L'heure d'un point sur les principaux titres de l'actualité internationale avec vous, Charlotte Hydrac.
Avec à la une ces déclarations de Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix, finalement arrivée à Oslo, en Norvège. L'opposante vénézuélienne au régime de Nicolas Maduro dit avoir bénéficié d'une aide américaine pour sortir de son pays. Ça suscite beaucoup de questions dans la presse aux États-Unis. Nouvelle réunion de la coalition des volontaires pour l'Ukraine, les alliés de Kiev. L'Ukraine a transmis aux États-Unis sa version revue et corrigée du plan pour tenter de mettre fin à la guerre. Et selon le chancelier allemand, elle comprend cette version une proposition sur des concessions territoriales ukrainiennes. Le premier ministre bulgare vient d'annoncer la démission de ce gouvernement, et cela au lendemain d'une nouvelle manifestation de masse pour dénoncer la corruption dans l'appareil de l'État. Et puis en France, l'Assemblée a adopté tout à l'heure à l'unanimité une proposition de loi qui vise à garantir un avocat à chaque enfant sous mesure d'assistance éducative, c'est-à-dire en famille d'accueil ou en foyer.
On évoquait la situation à Uvira dans le journal. Depuis ce mercredi, l'AFC M23 a investi ce qui était, depuis la chute de Bukavu, le siège des autorités provinciales du Sud Kivu. La première conséquence de cette nouvelle offensive, c'est une dégradation de la situation humanitaire dans la région qui était déjà dramatique. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, en un peu plus d'une semaine, ce sont plus de 200 000 personnes qui ont été déplacées à l'intérieur du Sud Kivu. Des dizaines de milliers d'autres ont traversé la frontière vers les pays voisins. Au Burundi, ils sont accueillis par les autorités et les agences humanitaires dans des conditions difficiles. Notre invitée ce midi, Brigitte Mukanga Eno, elle est représentante de l'UNHCR au Burundi. Un entretien au micro RFI de Paulina Zidi.
Quelle est actuellement la situation à laquelle vous êtes confronté du côté du Burundi et de Bujumbura suite aux derniers événements à Uvira?
Nous sommes en train de faire face actuellement à un nouvel afflux des réfugiés en provenance du Congo, avec d'abord du côté de Damagnola. Il y a eu des combats qui ont conduit des milliers de personnes à traverser vers le Burundi. Et donc, à partir du 5 décembre, nous avons commencé à recevoir les premières vagues. Ensuite, le 6, ça s'est vraiment, le rythme avait été accéléré. Et le 6 au soir, nous étions déjà autour de 10 000 personnes. Et ça a ainsi continué sans stop. Et à la soirée d'hier, nous sommes arrivés à pratiquement presque 40 000 personnes qui sont arrivées. Ces personnes sont reçues par l'immigration du Burundi et le Service national des réfugiés du Burundi, qui sont en train de nous aider à faire le comptage des personnes, parce qu'à ce stade, on ne peut même pas les enregistrer à cause du grand nombre qui arrive au même moment.
Dans quelles conditions ils sont accueillis, ces nouveaux réfugiés?
C'est assez difficile parce que d'abord, ils ont marché pendant plusieurs jours et quand ils arrivent au Burundi, on les dirige pour ceux qui ont traversé à partir de Kamagnola, qui arrivent au niveau de Chibitoke. Le gouvernement a mis juste un espace ouvert où ils sont vraiment exposés à toutes les intempéries. Mais l'assistance humanitaire commence à s'organiser progressivement et nous avons déjà commencé aussi à les diriger vers le nouveau site des réfugiés que le gouvernement a mis à disposition également, mais qui est un site complètement vide, qui a besoin d'être développé, qu'on puisse mettre toutes les infrastructures qu'il faut pour mener une vie plus ou moins normale. Il y a le déblayage à faire au niveau de ces collines qui ont été mises à disposition et également mettre toutes les infrastructures, les latrines et tout ça pour l'hygiène, parce que quand il y a un grand nombre de personnes comme ça, sans hygiène, c'est immédiatement des problèmes de santé qui vont se déclencher. Et on a commencé à organiser des repas chauds avec les différents partenaires, comme le PAM, qui a mis à disposition de la nourriture pour que nous puissions donner ces premiers repas.
Quelle est l'urgence aujourd'hui pour vous particulièrement?
Mettre les personnes à l'abri, les éloigner de la frontière où la situation de sécurité n'est pas encore stable. Et ensuite, au niveau du site qui a été alloué, mettre des abris, donc construire des abris d'urgence. Et on pourra ensuite aussi s'occuper des personnes malades, parce qu'il y a beaucoup de personnes vulnérables parmi ceux qui sont arrivés. Il y a des femmes, des enfants, il y a même des personnes qui sont arrivées dans un état de santé assez difficile, des blessés, etc. Donc, il y a le volet santé qui est une priorité.
Aujourd'hui, on le sait, hein, l'aide humanitaire fait face à une baisse des financements. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'assurer la prise en charge humanitaire d'une crise comme celle qui est en train de s'aggraver dans l'Est de la RDC?
Malheureusement, les moyens font défaut. Pour toutes les agences actuellement, les moyens sont en défaut. Non seulement on est déjà en fin d'année, donc en fin de budget, mais ensuite, il y a aussi que le budget de cette année était déjà très, très bas et 2026 ne s'augure pas comme il faut. Et avec cet afflux de nouveaux réfugiés, les moyens font défaut à tous les niveaux. Et donc, nous avons mené ensemble une évaluation interagence hier pour définir un budget et voir avec les différents donateurs et partenaires du Burundi comment on pourrait assister, appuyer le Burundi à répondre à cette urgence des réfugiés.
Quand vous dites un budget, vous avez un chiffre aujourd'hui?
Au début de l'année déjà, avec la première vague, le budget qui avait été déterminé, les besoins étaient autour de 76 millions de dollars. Et on est déjà en décembre, mais ce budget n'a été financé qu'à hauteur de 40% jusque-là. Donc, le gap reste énorme, les 60% des 76 millions dont on avait besoin. Et on a toujours besoin, surtout face à ce nouvel afflux.
La représentante de l'UNHCR au Burundi, Brigitte Mukanga Eno, au micro RFI de Polynasie. Entretien à retrouver sur notre application et notre site internet. RFI, midi 54 en temps universel. À la suite à présent de notre série de reportages à la découverte des villes marocaines qui accueilleront la Cannes la semaine prochaine. Nous sommes à Tanger ce jeudi. Avec ses 2500 ans d'histoire, la ville du nord du Maroc n'a cessé d'évoluer au fil des siècles. Hôte donc de la Cannes 2025, Tanger a connu au cours des 15 dernières années des transformations urbanistiques majeures, avec notamment la rénovation de sa médina, des souks aux alentours, mais aussi la création d'un nouveau front de mer et d'une marina. Des bouleversements pour certains Tangérois et des polémiques entre les partisans du changement et les nostalgiques d'une ville plus authentique. Reportage de François Umferkataji.
Cette Kaysaria a au moins 3 siècles. Depuis 300 ans, des commerçants comme Hassan vendent des habits traditionnels, caftan ou gandoura, dans cette kissaria, une petite cour intérieure de la médina.
C'est très ancienne, c'est un design traditionnel marocain.
Longtemps dégradé, le lieu est désormais refait à neuf, les éliges sur les murs sont restaurées et le sol marbré. Désormais, des chanteurs y viennent même tourner des clips. En tout, le conseil régional affirme avoir consacré près de 14 millions d'euros pour réhabiliter l'ensemble de la médina.
C'était catastrophique, mais regarde, moi je vois que la municipalité fait pas mal d'efforts. Et ça marche de mieux en mieux.
Youssef, qui a toujours habité dans la vieille ville, salue l'effort, tout comme l'artiste tangérois Noam Chaoudry.
Ils ont refait toutes les façades, tous les bâtiments, toutes les ferronneries, ils ont rajouté des fleurs, ils ont très bien pavé. Donc du coup, ce qui fait que vraiment, c'est une merveille de s'y balader. Moi, c'est mon coin préféré dans tout Tanger. C'est clair que c'est la médina.
Ces 10 dernières années, c'est toute la ville qui a changé de visage. Du haut de ses 22 ans, Amr, bijoutier, a été témoin de cette métamorphose, avec notamment la construction d'un nouveau port de commerce.
Avant le port, on n'avait que Tangerville, il n'y avait pas Tangermed. Les camions passaient par là, on avait la station de train qui était au plein milieu de la corniche, la gare routière aussi, il y avait la porte de l'ancien port. Mais c'est très différent, oui.
Au milieu de ces bijoux en or, le jeune homme est presque nostalgique d'un temps révolu.
Moi, je préfère l'ancien. Le nouveau, c'est mieux pour toute la ville. Mais moi, je préfère l'ancien.
Mieux pour la ville et pour l'accueil des touristes notamment. En un peu plus de 10 ans, le nombre de nuitées a doublé. On estime à 850 000 le nombre de touristes à Tanger en 2024. Cette vague de visiteurs a bouleversé certains équilibres.
On ne se connaît plus, en fait, entre Tangérois. L'ancienne médina, c'était que les Tangérois qui vivaient ici. Tous les Tangérois qui avaient leur propriété dans l'ancienne médina ont vendu leurs biens en 2015.
Le site de location Airbnb propose plus de 7810 logements dans la ville, notamment dans la médina et la Casbah. Mounia a grandi dans ce quartier historique fortifié.
On n'a plus accès à des endroits parce que c'est blindé de touristes. C'est plus la même chose parce qu'il n'y a que des touristes et que ça ne reflète pas la Casbah tangéroise, quoi.
Depuis 2018, le port Tangerville peut également accueillir jusqu'à 3 bateaux de croisière simultanément, ce qui peut représenter jusqu'à 10 000 visiteurs en transit. François Mferkataji, de retour de Tanger.
RFI.
Nouvel épisode demain de notre série de reportages à la découverte des villes hôtes de la CAN au Maroc. C'est ainsi que se referme cette édition d'Afrique Midi, réalisée par Benoît Raymond. Laurent Chaffard était à la rédaction en chef. Dans un peu plus de deux minutes, la suite d'RFI Midi avec Charlotte Hydrac. Selon votre zone d'écoute, vous avez rendez-vous avec une demi-heure d'informations en portugais ou en full-full-dé. Restez bien à l'écoute de RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Dans notre émission Questions de femmes, nous parlons de la dépendance affective. Être suspendu au jugement des autres, comment sortir de cette vulnérabilité?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Club de luxe, DJ Facemaker.
Ce vendredi, juste après votre top 20, Wally sera en conversation dans l'Afro Club. L'artiste haïtien de Montréal présentera son projet Seven Bubbles en deux temps, entre hip-hop, funk, compas, reggae et rythme latino de ses débuts à aujourd'hui, en passant par ses réalisations en lien avec sa terre, Haïti.
Afro Club de luxe avec DJ Facemaker. Tous les vendredis à 20h10 TU sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Comment Amilcar, jeune étudiant africain brillant, est-il devenu Cabral, cofondateur du PAIGC, le parti africain de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert? 50 ans après, la marche du monde a mené l'enquête au Cap-Vert, dans les archives intimes et politiques de sa fille, Iva Cabral.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
À samedi à 14h10, temps universel sur RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.
Merci d'être avec nous à l'écoute de RFI. Il est maintenant 8h à Washington et Port-au-Prince, 13h temps universel. RFI Midi aux Amériques et en Haïti avec à la une ces déclarations de Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix et opposante vénézuélienne. Elle dit avoir bénéficié d'une aide américaine pour sortir de son pays. La fierté en Haïti avec l'inscription du compas au patrimoine immatériel de l'UNESCO, cette musique populaire et danse aussi. On appelle notre confrère Franz Duval du Nouvelliste à Port-au-Prince. Au programme aussi Cuba face au chikungunya, l'épidémie se propage dans l'île. Et puis notre rendez-vous avec nos confrères d'Outre-mer. Première avec vous précisément, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour.
À la une en Martinique, les